Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Jeudi 9 janvier, il est 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Bienvenue à vous tous et entrons vif dans le vif du sujet immédiatement avec vous, Marc Bourreau, le Japon. Et c'est assez logique et très fâché après la conférence de presse de Carlos Ghosn.
Fugitif hors la loi, titre ce matin la presse nippone au lendemain de la conférence de presse de l'ancien patron de Renault-Nissan. Je n'ai pas fui la justice mais l'injustice. J'étais un otage traité comme un animal, a-t-il répété hier à Beyrouth, 10 jours après son évasion rocambolesque de Tokyo. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Alors la presse japonaise s'enflamme, autant dire que ça ne plaît pas non plus au gouvernement et à la justice nippone.
Effectivement, il faut dire que Carlos Ghosn a été très virulent contre la justice japonaise. Il a dit tout le mal qu'il pense d'un système où il se sentait condamné avant d'être jugé. Il a aussi dénoncé une collusion entre les procureurs, Nissan et la presse. Carlos Ghosn a notamment montré du doigt Hiroto Saikawa, ancien patron de Nissan, et Harinada, l'un des vice-présidents de Nissan et très proche collaborateur. L'ancien président de l'Alliance considère qu'ils ont comploté afin de se débarrasser de Renault sans que le gouvernement japonais ne soit impliqué. Les réactions en provenance de Tokyo n'ont pas tardé. La ministre de la Justice a considéré inqualifiable son attitude. Elle ne voit rien de probant dans le show médiatique organisé hier. Un avis partagé par la presse nippone et les anciens dirigeants de Nissan. Ils ont surtout vu un fugitif hors la loi se prêtant à un monologue émotionnel sans éléments concrets convaincants.
Merci Eric Mauban. Carlos Ghosn, qui est par ailleurs convoqué par le parquet libanais aujourd'hui, il devra s'expliquer sur la demande d'arrestation émise par Interpol. La piste d'un problème technique se précise après le crash d'un Boeing ukrainien en Iran hier matin. L'appareil aurait fait demi-tour pour un problème peu de temps après son décollage. 176 passagers étaient à bord, il n'y a aucun survivant.
Voilà ce qui est inquiétant pour tous les gens qui prennent l'avion, parce que ce type de Boeing avait déjà eu plusieurs accidents. Et donc si la défaillance technique évidemment se confirme, bien, il y aura une défiance à monter donc dans cette catégorie de Boeing. En France, c'est une nouvelle journée de cohue en perspective dans les transports, mon cher Marc.
Mais oui Guillaume, il va falloir encore jouer des coudes pour cette 36e journée de grève. Trafic très perturbé sur les lignes de métro, des bus, des RER au compte-gouttes et des usagers franciliens qui peuvent se consoler au moins avec une bonne nouvelle. Leur passe Navigo sera remboursé pour le mois de décembre. Un accord a été trouvé entre la SNCF, la RATP et la région Île-de-France. Sa présidente Valérie Pécresse est au micro de Lauriane Toulmont.
Pour se faire rembourser, il suffira d'aller sur le site que Île-de-France Mobilité va ouvrir d'ici la fin du mois, qui s'appellera mondédommagementnavigo.com. Le voyageur aura besoin juste de mettre le numéro de son passe Navigo. Le montant des dédommagements, ça représente 220 millions d'euros. Si la grève devait se poursuivre, évidemment, nous nous reverrions avec la SNCF et la RATP.
Et en attendant, trafic très perturbé aussi pour les TGV. 60% des trains en circulation, 40% des TER. Ça s'annonce compliqué aussi dans les écoles aujourd'hui. 40% d'enseignants en grève au niveau national, selon les syndicats.
La bataille des retraites qui va se jouer aussi dans la rue aujourd'hui.
Quatrième grande journée de mobilisation interprofessionnelle partout en France. À Paris, le cortège partira à 13h de la place de la République, direction Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement. Après plus d'un mois de grève, après les fêtes de fin d'année, la CGT solidaire, la CFE-CGC espère une démonstration de force. C'est aussi l'espoir d'Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de Radio Classique ce matin.
J'appelle vraiment tous les salariés de tous les corps de métier aujourd'hui à se mobiliser pour que ceux qui sont dans la grève, eh bien, se sentent soutenus parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est vrai que c'est une très très longue grève, c'est un très très long mouvement. On a besoin d'afficher cette solidarité. Ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre, qui ont reconduit la grève, c'est vrai plutôt dans le secteur des transports, portent aujourd'hui le mouvement pour l'ensemble des salariés.
Yves Verrier de Force Ouvrière avec Dimitri Pavlenko ce matin sur Radio Classique. Un grand absent en revanche dans les cortèges, la CFDT, elle choisit une autre stratégie pour s'opposer à l'âge pivot. Au programme, tractage intensif et lobbying auprès des députés. Émilie Vallès.
Plusieurs milliers de tracts orange aux couleurs de la CFDT seront distribués dans les prochains jours avec cette phrase « 64 ans, c'est non, retrait de l'âge pivot ». Une manière de sensibiliser au plus près les Français sur les marchés notamment. À Paris, ce sera samedi matin, métro Saint-Paul à deux pas de l'hôtel de ville. 10 000 flyers vont être imprimés pour l'occasion. À Marseille, un tractage est prévu dès ce matin devant le siège local du MEDEF. Puis samedi, une cinquantaine de militants ira à la rencontre des clients d'un grand centre commercial de la ville. Des militants munis de tablettes car l'objectif c'est aussi de faire signer la pétition en ligne que le syndicat a lancée cette semaine contre l'âge pivot. Hier soir d'ailleurs, la barre des 60 000 signatures était dépassée. Enfin, toutes les unions locales CFDT ont aussi écrit à leurs parlementaires, en particulier à ceux de la majorité, pour les rencontrer, car ce sont eux qui pourront modifier le texte par amendement, alors il faut les séduire.
Les précisions d'Émilie Vallès.
Dans l'actualité également, démissions en cascade dans les hôpitaux publics.
1200 chefs de service vont quitter leurs fonctions administratives. 1200, ils dénoncent un effondrement. Le collectif Interhôpitaux lance un ultimatum au gouvernement pour sortir de la crise à compter du 14 janvier. Parmi les démissionnaires, le professeur Jean-Luc Jouve, chef de service en pédiatrie à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.
C'est un acte de désobéissance administrative qui va enrayer de manière significative la machine. C'est une rupture du lien entre l'administration et les soignants, ce qui est déjà considérable. Cette fonction de chef de service, on en démissionne, refusant de cautionner une administration pour qui la fonction de l'hôpital public est tournée vers un profit financier et non pas vers une qualité de soins. Et
des propos recueillis par Sophie Paolini. Coup de tonnerre au palais de Buckingham, Guillaume, au Royaume-Uni. Autre histoire incroyable, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé hier soir qu'ils prenaient leur distance avec la famille royale et toutes les obligations que cela implique. Ils partent s'installer en Amérique du Nord après des difficultés, disent-ils, à gérer la pression médiatique. Pas de pression, en revanche, pour le Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue de football. Vainqueur de Saint-Etienne 6-1, le PSG file en demi-finale, tout comme Lyon, Lille et Reims.
Et puis la reine Elisabeth, qui en général est imperturbable, a quand même fait savoir qu'elle était forte mais contente, elle qui aime tellement son petit-fils, de cette décision qu'elle considère comme tout à fait inappropriée. Il est 7h37. Nous avons rendez-vous avec les spécialistes dans un instant. Nous allons voir ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse de Carlos Ghosn avec Dimitri Pavlenko. Nous parlerons aussi du procès Weinstein avec Élodie Fournetch.